C'est le fun de voir ce que Dieu fait dans nos vies, hein? Comment est-ce qu'il nous fait grandir? C'est des beaux défis. Tournez avec nous dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et ce matin, notre sœur Julie va nous lire Romains 8. Mais simplement pour vous remettre dans le contexte, à la fin de Romains 7, Paul pose une question qui est en fait la question de tous ceux qui commencent à chercher Dieu et qui commencent à lire la Bible. Puis il découvre ce Dieu-là, aussi grand, aussi beau, aussi incroyable, aussi saint, aussi droit. Et puis là, il y a des luttes qui commencent, qui n'étaient peut-être pas là avant. T'es là des fois, par moment, mais quand tu commences à lire les Écritures, ouch! Là, tu dis, c'est ça être saint, c'est ça être selon Dieu. Comment je peux réussir à faire ça? Et à la fin du chapitre 7, Je vais lire de 22 à 25. Paul dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. C'est comme si il y a cette poursuite de la loi de Dieu en lui de marcher selon Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et donc, Paul pose cette question. Comment est-ce que je vais réussir à marcher selon Dieu? Et le chapitre 8 est sa réponse. On va vous dire un mot de prière ensemble, puis ensuite on va écouter la parole de Dieu. Père éternel, lire ta parole, c'est vraiment dérangeant. C'est inspirant, c'est éclairant, mais c'est tellement dérangeant, Seigneur, de lire tes Écritures et de découvrir ce qui est juste et bon. Ce que tu attends des hommes, des êtres humains dans nos rapports, nos relations les uns avec les autres, dans notre attitude envers toi, dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos agissements, Seigneur. On découvre une barre qui est bien, bien haute, Seigneur, à franchir, à atteindre. Et on a besoin, Seigneur, d'une délivrance, d'une grâce qui vient de toi pour marcher dans tes voies. Je te prie ce matin, Père, de venir nous parler, de venir nous éclairer, de nous aider à comprendre, Seigneur, ta sainte parole qui est pleine d'une sagesse qui vient d'ailleurs, Seigneur, d'ouvrir les yeux de notre cœur afin qu'on puisse saisir ces choses. Et qu'on puisse entrer dans cette nouvelle spiritualité qu'on trouve en toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter Julie nous conduire dans la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre Romains au chapitre 8, édition Louis II. Romains au chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, lorsque la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose en lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Merci, Julie. Quel chapitre! C'est peut-être mon seul regret, je pense, à travers l'Épître aux Romains, c'est de ne pas passer quelques semaines sur ce chapitre-là. Il y a tellement de choses là. Mais ce chapitre-là est encadré, évidemment, par un début et une fin. Je vais attirer votre attention sur deux versets. Le premier verset. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant, dès à présent, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et les deux derniers versets du chapitre 8, Romains 8, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ces deux versets merveilleux-là encadrent tout ce qui est dit dans cette lettre-là. Paul pose la question à la fin du chapitre 7. Oui, mais comment est-ce que je vais réussir à vivre cette vie-là? Moi qui suis exposé à la loi de Dieu, à la pensée de Dieu, comment est-ce que je vais réussir à vivre cette vie-là? Mais sa réponse dans le chapitre 8, c'est que celui qui croit en Jésus-Christ, et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin, celui qui croit en Jésus-Christ entre dans une nouvelle spiritualité. Celui qui croit en Jésus-Christ entre dans une nouvelle spiritualité parce que l'Esprit de Christ habite maintenant en lui. J'entre dans une nouvelle dimension parce que fondamentalement, à l'intérieur de moi-même, il y a quelque chose de profond qui est changé. L'Esprit de Christ habite en moi. Chose impossible à la loi lorsque je fais simplement essayer de suivre la loi. Chose impossible à la loi pour moi. De marcher dans les voies de Dieu, la loi sert plus de jugement, de pédagogue qui manifeste, qui montre constamment mes échecs. Par cette nouvelle spiritualité, l'Esprit de Christ habitant en moi, je suis conduit dans une vie nouvelle à présent. Et c'est ça que Paul nous présente. Et Paul contient cette vie-là entre ces deux versets-là. Dès maintenant, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Pas celui qui observe parfaitement la loi. Pas celui qui s'accroche. Celui qui est en Jésus-Christ, qui a placé sa foi en Jésus, tout bonnement, tout simplement, avec foi. Et non seulement Paul a l'assurance dès maintenant qu'il n'y a plus de condamnation, il n'est plus sous la loi, mais il y a l'assurance à la toute fin du chapitre que ni la mort, ni quoi que ce soit ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce que Paul cherche dans les chapitres 6, 7 et 8 de Romains, c'est d'aider les chrétiens à comprendre comment est-ce qu'on va porter du fruit pour Dieu. Si la loi était incapable de produire en nous ce fruit-là, si la loi était incapable parce qu'on est pécheur, puis la loi devient simplement une règle devant nous, une mesure qui nous montre qu'on n'y arrive pas, on n'atteint pas la barre, on n'atteint pas la mesure. Comment est-ce que cette vie nouvelle-là va se faire? Comment est-ce qu'on va porter du fruit pour Dieu? Et la réponse de Paul au chapitre 8, c'est que je ne suis plus seul dans cette quête-là, mais il y a une vie nouvelle qui a commencé en moi. Ce matin, ça se peut qu'à travers le message, certains d'entre vous vous dites, je connais pas ça. J'ai pas ça, j'ai pas cette assurance-là, je vois pas cette vie-là, j'ai pas ces désirs nouveaux-là en moi. Il y a lieu de t'interroger à savoir si tu as saisi l'Évangile. Il y a lieu pour toi de t'interroger à savoir si tu as saisi l'Évangile. Puis je ne dis pas ça pour que tu fais le mal, que tu te sentes coupable, que tu partes d'ici avec un autre fardeau. Au contraire, je dis ça pour que tes fardeaux soient allégés. La pire affaire qui peut t'arriver, c'est de fréquenter une église évangélique qui prêche la parole de Dieu semaine après semaine, puis pas saisir l'Évangile. C'est terrible. C'est terrible. Parce que tu vas lire tout ça, tu vas entendre les messages, puis tu vas essayer par tes propres forces d'arriver sur la coche, d'atteindre ça. Écoute, si tu réussis, viens me voir. J'ai besoin que tu m'expliques comment. Il n'y a pas un être humain qui était capable de le faire à part Jésus-Christ. Mais si ce dont on va parler ce matin, tu viens d'une famille chrétienne, tu as été élevé dans l'Église toute ton enfance, toute ta vie, tu fréquentes l'Église depuis des années, tu cherches Dieu depuis des années, tu lis les Écritures depuis des années. Si ce qu'on va voir ce matin, cette vie-là de l'Esprit en nous, cette spiritualité nouvelle-là, résonne aucun écho en toi, cherche plus loin, pose des questions. On l'a dit tantôt, Luigi l'a dit, accroche quelqu'un à côté de toi, dis écoute, je Je comprends pas ça. Je veux dire, je trouve ça intéressant, mais ça résonne pas en moi. C'est pas là en moi. Pose des questions. On est là pour ça. Ça va nous faire super plaisir juste de s'asseoir. N'importe qui s'y accroche-les. Dis-lui, écoute, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre. C'est comme, je voudrais vivre ça. Je connais pas ça. Je viens à l'église depuis 20 ans. Je ne connais pas ça. Ça va nous faire plaisir. Prendre le temps d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus-Christ. Puis c'est pas parce que tu connais la chanson, tu connais la toune, tu es capable de nous réciter la petite histoire de Jésus au complet par cœur, que c'est là dans ton cœur. C'est cette vie-là de l'Esprit dont on parle ce matin, qui est là pour confirmer à quelque part que c'est là dans ton cœur. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, on survole un chapitre qui est vaste, qui est riche. Il y aurait beaucoup à dire, et je fais le choix depuis quelque temps de pas passer un an et demi sur un livre biblique, d'y aller un petit peu plus brièvement, d'accord? Mais simplement pour vous donner des repères à l'intérieur du chapitre 8, ce qu'on va voir ensemble, c'est cet esprit de vie qui est là en nous. Lorsque je parle d'une nouvelle spiritualité, c'est qu'il y a un esprit de vie qui est en moi, l'esprit de Christ qui est en moi. Maintenant, il y a une vie nouvelle qui est là. Cet esprit de là, Paul me dit, non seulement il apporte la vie, il va m'instruire dans une vie nouvelle, mais c'est un esprit d'adoption aussi. C'est super important parce que Paul a traité au chapitre 6 de l'esclavage au péché. Puis à un moment donné, Paul a dit, soit que tu es esclave du péché ou soit que tu es esclave de la justice. Puis après ça, il dit, je parle à la manière des hommes quand je dis ça. Parce qu'en réalité, au chapitre 8, Paul va dire, c'est pas un esprit de servitude qui nous a été donné. Donc l'image de cet esclavage-là reflète pas toute la relation qu'on a avec l'Esprit Saint. C'est un esprit d'adoption. C'est un esprit d'adoption. Cet esprit de vie que chaque chrétien reçoit est un esprit d'adoption. Et non seulement cela, cet esprit qui est là en nous, nous conduit aussi à soupirer après plus que tout ce qu'on trouve ici, soupirer après une gloire plus grande encore. Et donc, le chrétien vit dans cette tension-là entre le déjà sauvé, puis en même temps, pas encore entièrement accompli. En anglais, des fois, vous allez entendre l'expression « already not yet ». Déjà sauvé, dès à présent, j'ai la certitude qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Déjà. Mais en même temps, devenir chrétien, c'est aspirer à une gloire plus grande aussi. Et l'Esprit pousse ces soupirs-là en nous parce qu'on aspire à un jour où on sera tout simplement dans la présence de Dieu. Et enfin, ce que Paul fait à la fin, c'est qu'il nous dit, cet espoir de gloire-là n'est pas simplement qu'une espérance, c'est une assurance. C'est une assurance que je pouvais pas avoir lorsque j'essayais de me rendre à Dieu à travers la loi. Parce que la loi était plutôt un jugement sur moi. C'est une assurance que j'ai parce qu'elle repose sur l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, personne ne va pouvoir détruire ça. Parce que lui m'a aimé parfaitement. En voyez-vous, quatre éléments qu'on va voir ensemble, on va les survoler brièvement. L'esprit de vie en moi. Regardez avec moi, encore une fois, les versets 1 et 2, je vous les relis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourtant, la loi nous condamnerait. Mais au verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ vit maintenant sous un autre régime que le régime de la loi. Chaque matin, quand je me lève et je vais lire les Écritures, je pourrais dire que je lis la loi de Dieu. Cette semaine, ça faisait un bout de temps, je n'étais pas allé dans les Proverbes, puis j'allais lire le livre des Proverbes, puis le livre des Proverbes, c'est plein de perles de sagesse très, très petites. En même temps, ça te présente un standard de justice, de bonté. Wow, c'est comme là, tu sais. Mais maintenant, pour moi qui suis en Jésus-Christ, j'ai placé ma foi en lui, j'ai compris que c'est lui qui avait accompli la justice de Dieu, c'est pas moi. Je vais lire ça en prenant la mesure chaque jour du fait que je suis pas là, mais lui est là et je décide de le suivre tout simplement, de marcher à sa suite. Il y a une nouvelle loi qui est en moi, qui est la loi de l'esprit de vie. Cet esprit-là, Donne des aspirations à mon cœur de marcher dans les voies de Dieu. Fais pencher mon cœur ailleurs qu'il ne penchait avant. Et de plus en plus, fais pencher mon cœur vers les choses de Dieu. L'esprit de vie habite en moi parce que j'ai cru en Jésus-Christ, tout simplement. Maintenant, regardez bien ce que Paul dit au verset 5, 6, 7. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que quand je décide de placer ma foi en Jésus, il y a des nouveaux désirs qui naissent en moi. Il y a des désirs qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas les mêmes. Le désir d'être comme Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ, il y a une réorientation de mon cœur qui se produit. Et c'est très, très clair dans les versets qui suivent que ce n'est pas systématique, ce n'est pas comme il n'y a plus de combat, il n'y a plus de combat entre la chair et l'esprit. Chair parlant pas du corps, mais parlant de cette vieille nature-là, cette nature pécheresse-là, ce vieil homme-là, ce sont tous des synonymes dans la lettre aux Romains. C'est pas qu'il n'y a plus de combat, il demeure des combats, mais il y a cette affection-là de l'esprit. Lorsqu'il parle des choses qu'affectionnent l'esprit, de quoi il parle? Il parle de vouloir ressembler à Christ. Je lis les évangiles, puis je me dis, « Boy, c'est comme ça que je veux être tous les jours de ma vie. Je veux te suivre, Jésus. » Je fais des choses dans la journée, j'en vois une platitude, puis il y a une tristesse qui s'installe dans mon cœur. Pas la frustration simplement d'avoir engagé un conflit, puis d'avoir un conflit à régler. C'est une tristesse de ne pas être comme Christ dans cette situation-là. Il y a une situation qui se présente, puis je vois le vieil homme en moi qui réagit, puis il y a une tristesse qui est là parce que c'est pas ça que je veux être. Et ce sont simplement ces affections de l'esprit qui s'expriment en moi. Et celui qui est né de l'esprit s'affectionne des choses de l'esprit, pas de manière parfaite, mais s'affectionne des choses de l'esprit. Je vous dirais qu'une bonne partie de la vie chrétienne, c'est s'acclimater à cette réalité que je suis habité de l'Esprit-Saint. Est-ce que ça fait du sens pour ceux qui sont chrétiens depuis plusieurs années? Est-ce que ça fait du sens ce que je dis là? Une bonne partie de la vie chrétienne, c'est entrer dans cette vie-là avec ces pulsions nouvelles qui sont là, qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui me dit « Oui, c'est ça que je veux être, c'est là que je veux aller. » Puis j'ai une tristesse quand je ne m'en vais pas là. Puis j'apprends à apprivoiser cette voix-là qui est là, qui résonne de manière différente par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas un fardeau constant sur mes épaules. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je crois personnellement qu'à la fin du chapitre 7, lorsque Paul dit « Voici, je trouve deux lois en moi », je pense qu'il est en train de parler de celui qui cherche Dieu, qui n'a pas encore connu Dieu, et il est en train de parler de cette lutte-là. Mais je crois aussi que chaque fois qu'un chrétien décide de chercher Dieu à travers l'obéissance de la loi, il recommence à réfléchir comme ça. Donc, ça m'arrive à moi aussi d'être en train de lire la Bible puis de dire « Ouf! Ah, c'est lourd cette affaire-là, je sais pas comment je vais y arriver, j'y arriverai pas, c'est incroyable, puis c'est un poids constant sur ma conscience. » Mais l'Évangile a résolu ça. Ce poids-là, je peux pas le prendre simplement sur ma conscience, ça va me tuer. J'arriverai jamais à satisfaire cette loi-là. Lorsque je marche par l'Esprit et que l'Esprit produit cette tristesse en moi, rapidement je cours à la croix. Rapidement, je cours à la croix. Je dis, « Seigneur Jésus, l'Esprit me parle encore de toi. De toi seul qui as accompli, respecté, honoré cette loi-là. Toi, tu as été le Fils parfait que je ne suis pas. Et j'accepte cette grâce qui m'est faite. Que ta justice, Dieu la reconnaît en moi par la foi. J'ai cru, ta justice m'est imputée, Seigneur. Et je veux te suivre maintenant. » Alors, voyez-vous, pour le chrétien, la loi le conduit à Christ et il décide de suivre Christ. Toujours. La loi me parle de Jésus-Christ, le Fils parfait, qui l'honorait parfaitement. Et la loi, face à mon péché, ne me conduit pas, ne me replace pas sous le joug de la loi, me conduit à Christ. Et je décide de suivre celui qui m'a aimé. Et c'est ça que l'Esprit cherche à produire en nous constamment. Constamment. L'Esprit de vie m'a affranchi de cette loi. Et je suis appelé progressivement à renoncer à ces œuvres charnelles. Regardez avec moi le verset, un petit peu plus loin dans le chapitre 8, je m'excuse, le verset 13. Il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Il ne parle pas de mort physique là ici. Il est en train de dire, « Celui qui est chrétien s'acclimate à cette personne qui est en lui, l'Esprit de Dieu, qui produit en lui de nouvelles aspirations. » Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. J'apprends à ne plus écouter ce vieil homme-là, il n'y a plus d'autorité sur ma vie. Et c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie, d'accord? C'est un cheminement dans lequel Dieu me conduit. Et je pense que c'est important. Si, je sais que je vais troubler des gens ce matin, mais c'est important de le faire. C'est important de le faire pour saisir l'Évangile. Cette aspiration-là, le chrétien le ressent. Et si vous êtes étranger à ça, puis vous avez toujours l'impression que le christianisme, c'est une grille à cocher de tout doux, vous avez besoin que l'Esprit vous révèle l'Évangile et qu'il vienne faire sa demeure en vous. Et une autre des manières que ça se manifeste très clairement dans le cœur du croyant, c'est comme si Paul, à quelque part, voulait nous rassurer. Il dit non seulement l'Esprit produit en nous une vie nouvelle, mais à partir du verset 14, il va dire « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Celui qui a cru en Jésus-Christ a reçu l'Esprit de Christ en lui. Et cet esprit-là n'est pas un esprit de servitude qui nous garde sous le joug de la loi, qui fait qu'à chaque jour, je me lève et je dis, est-ce que je vais être sur la coche? Si je suis sur la coche, je peux espérer aller au ciel, je peux espérer être sauvé, je peux espérer avoir la bénédiction de Dieu aujourd'hui sur ma vie. Je peux espérer que Dieu va être avec moi parce que j'ai été sa coche. J'ai honoré la loi. Ça, c'est un esprit de servitude qui est impossible à honorer parce qu'on est pécheur. Mais celui qui est en Jésus-Christ a reçu non pas un esprit de servitude, un esprit d'adoption. Et il y a une certitude, il y a une conviction qui s'installe dans notre cœur que Dieu est mon Père. Puis encore là, c'est possible de vivre ça sans être chrétien. Si le Dieu que j'imagine, c'est une espèce de bon papa gâteau qui ressemble absolument à rien à mon père terrestre, qui s'attendait quand même à ce que je respecte des règles à la maison, puis qui s'attendait à ce que je fasse pas trop le nono, puis qui me demandait de respecter les autres dans la maison. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est une espèce de Dieu bon, bonasse, sans aucune règle, sans aucune loi, une machine distributrice sur laquelle il n'y a pas de nip. Tu sais, tu fais juste comme retrait. Si je vois Dieu comme ça, mais ça se peut que depuis toujours, j'ai l'impression que Dieu, c'est mon Père. Évidemment, je le sens moi. Dieu est mon Père. Lis la Bible. Lis la Bible avec cette compréhension-là de Dieu. Commence à lire les Écritures. Le réflexe que tu vas avoir, je te le dis, ça va être de prendre ce livre-là, là, laisser ça là. C'est pas Dieu, ça. Moi, je connais Dieu, il est ici. Je le sais. Parce que ce Dieu-là te dit qu'il est à la fois créateur, qu'il veut être ton père, mais en même temps, il est saint, il est juste. Il juge les actions des hommes comme les hommes jugent les actions des hommes et beaucoup mieux encore. Cette semaine, je lisais la presse plusieurs fois dans la semaine puis je voyais tellement de jugements. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Faut pas faire ça. Elle devrait pas faire ça. Ça va être reçu comme canadienne. Non, ça, c'est mal. C'est pas correct. Toujours en train de juger. Oui, parce qu'il y a cette quête de bien, de mal, de justice sociale. Bien, le peu de justice qu'il y a en toi, pense à Dieu puis mets ça fois 1 milliard, d'accord? Ce qu'il y a de plus noble en toi est un simple reflet, un petit parfum d'un Dieu qui est la source même de ce parfum-là de justice, de sainteté, de justice sociale, de bien moral, de respect, d'amour, de charité, de générosité, de don de soi. C'est ça, Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en lisant la Bible, je peux lire la Bible, être confronté à ce Dieu-là, puis dire, ce Dieu-là, c'est mon Père, ce Dieu-là m'accueille, ce Dieu-là m'aime, tout en étant vraiment lucide sur qui je suis? J'ai besoin d'avoir cru en Jésus-Christ, d'avoir placé ma foi en Jésus-Christ, d'avoir reçu l'Esprit de Christ en moi, qui est un esprit d'adoption et qui me dit « Je t'aime, même si tu n'es pas sa coche, parce que tu ne seras jamais sa coche. Il y a juste Jésus qui a été sa coche. » Et celui qui est chrétien a cet esprit d'adoption en lui, qui fait que lorsqu'il n'est pas sa coche, parce qu'admettons-le, ça arrive souvent, puis à un moment donné, on fait le cheap, puis on fait le poche, puis on fait le nul, puis on va dans la prière, puis le premier mot qui sort, c'est quoi, papa? Père, pardonne-moi, Père. Tu sais que je veux être comme Jésus, je veux suivre Jésus. C'est un esprit d'adoption qui me dit que je ne suis pas placé sous une loi, mais je suis placé dans un contexte d'amour. Cet amour-là a une loi, oui, c'est vrai, c'est la loi de Christ, une loi de liberté où je cherche à suivre Christ et à lui ressembler. Mais je suis premièrement dans un contexte d'amour, c'est cet esprit d'adoption-là. Tellement précieux, tellement précieux, tellement précieux. Enfin, Paul nous dit que cet esprit qui est en nous nous donne l'espoir de quelque chose qui va être plus grand. Si tous les êtres humains vivent dans cette vie avec toutes sortes de frustrations parce qu'ils aspirent à avoir une humanité qui est plus grande et plus belle que ce qu'elle est. Le chrétien qui a lu les Écritures, qui connaît les Écritures, qui a ajusté sa compréhension du bien et du mal à la lumière des Écritures, soupire après ça encore plus. Parce que quotidiennement, il est confronté à cette faiblesse humaine qui fait qu'on n'est pas aussi glorieux qu'on voudrait l'être. Et il y a cette aspiration-là profonde à la gloire de Dieu, à être comme Dieu, à lui ressembler, pas prendre la place de Dieu, être comme Jésus-Christ, avoir le caractère de Christ formé en nous. Et il y a cette aspiration profonde qui est là. Je vais reprendre ma Bible parce que je m'en sers. Je ne l'ai pas rejetée. Regardez bien ce que Paul dit. Au verset 19. Ainsi la création attend-elle, parlant même de la nature, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, lorsque nous serons dans la gloire et que nous serons véritablement en tout point comme Christ dans notre caractère. Oh, c'est plus que ça, c'est un corps ressuscité, c'est un corps glorifié. Il n'est pas explicite dans ce sens-là, d'accord? Il faudrait aller ailleurs dans les Écritures pour aller voir ça. Mais il dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu parce que ce que nous serons dans la présence de Dieu n'est pas encore révélé. Et c'est là, on aspire à ça. Et je crois qu'un des endroits où on fait erreur comme chrétien, c'est lorsqu'on garde les yeux fixés uniquement sur la terre et qu'on fait taire en nous cette aspiration-là, cette gloire divine à ressembler à Dieu véritablement, au caractère de Christ, à être dans la présence de Dieu. Verset 22-23, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Et il y a ce désir en nous d'être libérés de toutes ces luttes-là, de tous ces combats-là avec le vieil homme, avec la nature pécheresse, et simplement de vraiment, à chaque instant, refléter la perfection et la beauté du caractère de Christ. Lorsque je parle à quelqu'un, quand je parle à mon épouse dans la semaine, puis je donne souvent cet exemple-là, puis à un moment donné, je lâche une platitude, ou il y a quelqu'un qui passe, puis j'ai une pensée qui me fait honte parce que je ne devrais pas penser comme ça, ou j'ai un réflexe égoïste, puis je croise quelqu'un qui est vraiment généreux, puis à quelque part, j'ai honte. J'aspire à être comme Christ. Et il y a ce soupir-là en nous qui nous dit que nous attendons quelque chose d'autre et que nous sommes entrés dans une nouvelle spiritualité. Et enfin, en terminant, Paul nous dit que cet espoir-là, c'est une ferme assurance. C'est une certitude que Dieu va le faire. C'est une certitude que Dieu ne peut pas et ne va pas revenir en arrière. Et j'ai besoin de ça. Parce que trop souvent, je me regarde dans le miroir et je dis, c'est clair que je ne suis pas rendu. Parce que je regarde mon cœur, mes attitudes, mes comportements, c'est clair que je ne suis pas rendu. Il m'arrive des fois de lire les Écritures, puis d'être en prière, puis de dire, Seigneur, mais tableau, est-ce que je suis chrétien? Et j'ai besoin de Romains 8. J'ai besoin d'écouter ces aspirations-là qu'il y a dans mon cœur, qui sont bien là. Ces affections de l'esprit qui sont là. J'ai besoin de Romains 8 pour écouter en moi cette conviction que Dieu est mon Père. Il m'aime et je suis pas dans un, c'est pas un esprit de servitude, c'est un esprit d'adoption. C'est là en moi, ça. J'aspire à cette gloire d'être comme Christ. C'est là en moi, ça. Et je reviens à l'Évangile, enfin. Je reviens à l'Évangile et j'ai cette certitude. Cette certitude que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il y a un verset vraiment beau. Ceux qui étudient en théologie, sur ce verset-là. C'est verset 29-30. Parce que Paul montre comme une espèce de séquence de ce que c'est devenir chrétien dans un langage théologique qui, en même temps, nous aide à comprendre des choses. C'est pas complet. Essayez pas d'expliquer chacune des étapes. Il y a des éléments importants qui sont pas là, mais en même temps, ça nous aide à voir cette assurance-là. Je vais lire les deux versets. Mais essayez de saisir l'émotion de Paul. Paul est en train de nous dire, quand quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui nous conduit de manière irrémédiable, avec certitude jusque dans l'éternité. En fait, Paul fait plus que ça. Il dit, ce mouvement-là que je suis en train de vivre maintenant, parce que je vois ces aspirations-là dans mon cœur, je veux marcher avec Dieu, je veux suivre Dieu, je sens ce mouvement-là qui est en moi, je vois les années qui défilent, puis je vois ce moment où j'ai cru, je vois les changements qui sont en train de se faire, je vois ces aspirations-là, je vois cette aspiration-là à plus aussi qui sont là. Ce mouvement-là, me dit Paul, ça a commencé bien avant que je naisse. Ce mouvement-là a été enclenché bien avant. Verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Voyez-vous, l'objectif, c'est pas simplement que je puisse dire « Je me ferai pas griller les fesses pour l'éternité. » C'est que je devienne comme Christ. « Semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Christ dans sa résurrection et les prémices, il m'annonce que je vais devenir. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Sa prédestination a été efficace, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme si Paul est en train de regarder le cheminement d'un chrétien avec les lunettes de Dieu qui est à l'extérieur du temps. Dieu n'est pas dans le temps, vous comprenez, hein? C'est Dieu qui a créé le temps. Dieu est à l'extérieur de la sphère du temps. Ta naissance, ta vie, ta mort, pour Dieu, c'est un même instant, si je peux prendre ce terme-là. C'est pour ça que de parler d'éternité en éternité, c'est un drôle de concept lorsqu'on essaie de penser à l'éternité. On parle d'être hors du temps pour Dieu. Et il y a une perle dans ce verset-là. Au verset 29, lorsqu'il dit « car ceux qu'il a connus d'avance », je crois vraiment que Paul est en train d'utiliser cette expression-là de la même manière qui est utilisée généralement dans la Bible, qui n'est pas simplement que Dieu a su d'avance, qui va beaucoup plus dans le sens de que Dieu a aimé d'avance. De la même manière que Adam connut Ève, l'aima. Ceux que Dieu a aimés d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce qui conduit l'apôtre Paul au verset 38 à nous dire, « car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » L'Esprit qui t'a été donné quand tu as placé ta foi en Jésus-Christ, t'a été donné par amour. C'est l'amour de Dieu qui est exprimé à travers le fait qu'il t'a donné son esprit. Et lorsque tu lis les Écritures, tu es confronté à la loi de Dieu, rappelle-toi que Dieu t'a aimé en Jésus-Christ. Va vers les préceptes de la parole, va vers la parole constamment, elle instruit ton intelligence. Ton cœur, c'est l'épée de l'esprit, l'esprit s'en sert. Mais lorsque tu vas vers les Écritures, rappelle-toi que Dieu t'a aimé et qu'il t'a donné l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu. Cet esprit-là veut prendre cette parole-là et produire une vie nouvelle en toi. Incliner ton cœur vers les choses de Dieu, te pousser à suivre Christ quotidiennement. Cet esprit-là te dit constamment, répète à ton cœur, que tu es un enfant de Dieu. Vas-y à tous les jours t'asseoir dans la présence du Père, dans la prière. Et prends le temps d'apprécier cette grâce-là. Cet esprit-là va te laisser insatisfait de la vie ici-bas. Parce qu'il y a une espèce de frustration. J'aspire à la gloire d'être un fils de Dieu à la ressemblance de Dieu le Fils. Et je vis cette frustration-là, cette attente-là. Et cet esprit-là va te donner une ferme assurance qu'absolument rien ne va pouvoir te séparer de l'amour de Dieu parce que c'est dans une relation d'amour qu'on est entré. Et si au quotidien, dans ton cheminement de foi, dans ta quête de Dieu, ces choses-là te sont étrangères, ça ne résonne pas en toi. Accroche quelqu'un ce matin. Dis-y, explique-moi Jésus un petit peu plus, ça a l'air qu'il m'en manque un morceau. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce pour ta parole. Ces choses, Seigneur, sont révélées dans tes Écritures et ce ne serait pas possible pour nous de te connaître sans lire la Bible, Père. Mais trop d'êtres humains, à travers l'histoire du christianisme, à travers l'histoire du monde, ont lu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour n'en retenir que la loi. Pour n'en retenir qu'un système religieux insupportable, inaccessible au cœur humain, parce que nous ne pouvons pas être saints, Seigneur, comme toi, par nous-mêmes. Merci pour ta grâce, Seigneur, pour l'Évangile de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cet Esprit Saint qui nous est donné, qui ne parle jamais de lui-même, qui parle toujours de toi, qui attire jamais l'attention sur lui, mais sur toi, Christ. Merci pour cet Esprit qui est en moi et qui m'attire, qui fait pencher mon cœur, Seigneur, vers de nouveaux désirs, de grandeur, de beauté, de gloire, de sainteté, Seigneur. Cet Esprit qui me rappelle à tous les jours que je ne suis pas embarqué dans une religion, je ne suis pas embarqué dans un carcan, je ne sais pas de supporter des lois insupportables, mais je suis serviteur d'un Père qui m'appelle son Fils. Je suis un Seigneur qui m'appelle son frère. Seigneur, j'ai hâte d'être dans la gloire. J'ai hâte de te voir face à face. J'ai hâte d'être libéré, Seigneur, de tous les combats, de toute la tristesse qu'il y a à voir un monde qui va souvent tellement mal, Seigneur, à cause de la rébellion du cœur humain. Et j'ai cette assurance, Seigneur. J'ai cette assurance, Seigneur, que je vais voir ta gloire. Amen.